Je commencerai donc par un commentaire narratorial, justement, sur les liens entretenus entre le cousin Ponce et Madame de Marville. Aussi, les rapports du pauvre Ponce avec ce diable en jupon étaient-ils ceux d'un écolier avec un maître qui ne parle que par férule? Les romans de la comédie humaine des années 1830 mettent fréquemment en scène des figures de grands inventeurs dans les domaines de la science ou de l'art. Ces chercheurs d'absolu sont à bien des égards pourvus des caractéristiques de l'artiste romantique en quête d'idéal, artiste romantique dont la réalisation est cependant empêchée par de multiples facteurs. Plusieurs évolutions apparaissent au cours des années 1840 dans la comédie humaine. D'abord, ces types de créateurs ne sont plus uniquement masculins. Deux femmes auteurs émergent, en effet, avec Dina de la Baudraye, la muse du département 1843, et Camille Maupin, dans Béatrix, en 1844. Deuxième changement, la grande figure d'artiste laisse de plus en plus de place à une forme de personne ordinaire inventive, un monsieur tout le monde créatif. C'est le cas, par exemple, de Godefroy dans L'envers de l'histoire contemporaine. Néanmoins, mutation remarquable, ce sont les femmes qui joue le plus fortement ce rôle de plébéien inventif, comme Diane de Cadignan en 1840, Rosalie de Watteville dans Albert Savarus en 1842 et Modeste Mignon en 1844. Ainsi, le partage de la créativité, pour décliner l'idée de Jacques Rancière d'un partage du sensible, ne se fait plus uniquement entre les classes sociales, mais entre les sexes. Or, en 1846 et 1847, la cousine bête et le cousin Ponce poursuivent l'évolution du personnage inventif de Balzac, et ce, dans un bouleversement plus fort du système traditionnel des personnages. En effet, le personnage ordinaire créatif subit plusieurs transformations, dont deux stupéfiantes. Les figures inventives qui ont une pensée fixe et qui dominent jusqu'à la fin, contrairement aux parasites de César Birotteau ou d'Ursule Mirouet par exemple, déploient leur créativité dans l'ignominie la plus totale. En outre, les diables les plus inventifs semblent être les femmes. Les limites entre femmes et hommes sont d'ailleurs perméables. Ainsi, en nous demandant si la comédie humaine fait apparaître, avec le cousin Ponce, une dégénérescence du plébéien inventif, nous nous poserons la question suivante. La grande métamorphose du type créatif dans ce roman de 1847 ne tient-elle pas au fait que le personnage cède beaucoup de place à des créatrices maléfiques, diablesses infernales qui l'emportent dans une certaine mesure sur le masculin? Si c'était déjà le cas dans le premier volet des Parents pauvres, La cousine bête, dans laquelle Nicole Mosé a étudié la place du pouvoir féminin, c'est peut-être plus radical dans Le cousin Ponce. Une brève typologie du personnage inventif dans Le cousin Ponce sera d'abord nécessaire pour dresser un état des lieux et cerner les modes de déchéance de ce type de la comédie humaine. Il sera alors possible, en deuxième lieu, de se demander si, dans la médiocratie de la monarchie de Juillet, le personnage inventif principal, et non plus seulement secondaire, se pervertit en des formes de créatrice maléfique. Enfin, il s'agira de savoir si cette dégradation insoutenable ne pourrait pas constituer un moyen sordide pour la femme de dominer totalement le système patriarcal de la monarchie de Juillet, et ce, à différents niveaux. Donc, je passe à mon premier point. Le cousin Ponce reprend les grands types, thèmes et topoi balzaciens, mais souvent en les dégradant. Le type du personnage inventif ne semble pas échapper à cette dynamique de déchéance. Une typologie succincte du type de l'artiste et du personnel inventif fait certes percevoir quelques traces de survivance de cette figure, mais il apparaît que ce type dégénère à plusieurs échelles. D'abord, l'artiste romantique. De manière étonnante, une figure créative pure peut persister dans Le cousin Ponce avec le personnage de Schmuck. D'abord, celui-ci incarne une forme d'artiste romantique immédiatement identifiée par un lecteur de la comédie humaine. Le Diogène musicien d'une fille d'Ève est aussi l'excellent professeur d'Ursule Mirouet. Néanmoins, le narrateur du cousin Ponce indique qu'il ne peut être qu'un démonstrateur. Pourtant, un passage fulgurant fait de Schmuck un artiste qui sait à la fois être interprète et créateur génial. Mais, donc ça apparaît à l'écran, mais dans cette nuit où Schmuck fit entendre par avance à Ponce les concerts du paradis, cette délicieuse musique qui fait tomber des mains de Sainte-Cécile ses instruments, il fut à la fois Beethoven et Paganini, le créateur et l'interprète. Cette dialectique de l'invention et d'une forme de réception peut, à notre sens, constituer un modèle d'épanouissement du lecteur. Néanmoins, dans la logique narrative du roman et dans le système des personnages, Schmuck est, selon Roland Le Huenen, enfermé dans un univers de rêverie et d'élucubration, comme le poète grotesque des litanies romantiques. Je cite. Ainsi, la seule figure de créateur qui conserve une passion artistique fixe, la musique et une amitié pure, celle pour Ponce, se dégraderait sous le mode de la caricature. Dégradation en un Allemand naïf, incapable de comprendre les rouages de la monarchie de Juillet. Schmuck est d'ailleurs réduit, pour Roland Le Huenen, à un enfant, un innocent, un inadapté et un marginal. Avec Ponce, et je passe au B, c'est dès le départ que le type inventif paraît désagrégé. Le portrait initial présente un musicien médiocre de troisième ordre, incapable de créer une œuvre véritablement originale. Certes, il est l'auteur de la première cantate couronnée à l'Institut lors du rétablissement de l'Académie de Rome, je cite le texte, et ce n'est pas rien. Mais cette récompense accentue la dégénérescence de l'artiste. Le cousin Lé ne se contente pas, en effet, de passer de l'artiste au plébéien inventif, avec le type du collectionneur moderne, selon la périphrase de Pierre-Marc de Biasi. En effet, sa perte de subjectivité par soumission ou identification aux objets poursuivis et accumulés, comme l'a noté Jacques-David Ebgui, le distingue également des personnages inventifs, géniaux ou ordinaires de la comédie humaine. Dernière déchéance, enfin, son inventivité se dissémine entre plusieurs passions concurrentes. La musique, la collection, la gourmandise, sans oublier l'amitié, selon Haute-Dervelle. Son hybridité typologique, d'après l'expression de Mireille Labouré, est ainsi étroitement lié à une dissémination de ses penchants artistiques. Le personnage inventif est ainsi dégradé, réifié et se fait même remplacer par la collection de Ponce, l'héroïne de cette histoire, je cite Balzac. Élimagus, le jumeau antithétique de Ponce, d'après la périphrase de Gérard Gingembre, semble lui conserver une idée fixe, celle de la collection, pour laquelle il canalise son énergie, contrairement au chétif cousin. Chef des tableaux-manes, Magus constitue-t-il, dès lors, un avatar du personnage inventif dans le cousin Ponce ? Si c'est le cas, cette mutation dégrade considérablement le type créatif, dans la mesure où la passion de Magus est cupide. La vénalité bourgeoise et égoïste de Magus démythifie la figure d'un personnage inventeur détaché de l'argent. Que ce soit Ponce lui-même, ou en 1844, des héroïnes inventives telles Modeste Mignon. Or, constat inquiétant, le personnage inventif obstiné par un but unique paraît ne plus s'incarner que dans des figures vénales. Et je passe au C. Bien pire, si Élimagus reste malgré tout motivé par la jouissance artistique du collectionneur moderne, les autres personnages, auteur de multiples stratagèmes, témoigne d'inventivité sordide pour satisfaire un désir unique, celui de l'argent. Si l'on retrouve l'idée fixe du héros balzacien conquérant, l'on perd toute la dimension estimable et romantique de la figure inventive désintéressée. Le personnage créatif se dégrade même en un bestiaire hideux, serpent, corbeau, tigre notamment, dans lequel l'homme est un pou pour l'homme, selon l'aphorisme de Michel Serres, qui décline l'homo homini lupus. Notons que ces manipulateurs monstrueux se distinguent du personnel maléfique de romans comme César Birotteau ou Ursule Mirouet dans la mesure où ils l'emportent à la fin du roman et où ils restent les seuls personnages inventifs du roman. Raymond Nanque, conscient du trésor que constitue le musée de Ponce, déclenche chez La Cibot la convoitise et d'odieux calculs. Il est de plus à l'initiative de l'intervention d'Elimagus. Son atroce inventivité va enfin jusqu'à trouver un moyen invisible d'empoisonner le mari de La Cibot en lui administrant des tisanes au vert-de-gris. Néanmoins, l'ironie narrative le détrône de ce statut d'inventeur maléfique, puisque l'ancien ferrailleur finit involontairement par s'empoisonner lui-même, sa femme ayant déplacé le petit verre de vitriol qui lui était destiné. L'ancienne Cibot, sans le vouloir, ou peut-être délibérément, une ambiguïté subsiste, à mon sens, se voit dépasser Raymond Nanque dans le déroulement narratif de l'œuvre. Elle lui survit. Toujours dans la sphère masculine, Frésier est une forme dégradée du plébéien inventif les plus prépondérantes chez le dernier Balzac. Cette détérioration est corporellement représentée par un petit homme sec et maladif, je cite, à figure rouge, dont les bourgeons annonçaient un sang très vicié, mais qui d'ailleurs se grattait incessamment le bras droit et dont la perruque, mise très en arrière, laissait voir un crâne de couleur de brique et d'une expression sinistre. Page 231. La figuration animale de Frésier en serpent inflexible, page 242-285, est une autre manière de représenter la déliquescence du personnage inventif. Cet avoué descendu au rang d'homme de loi du Marais ne se contente pas d'échafauder des stratégies pour détourner l'héritage de Ponce. Il orchestre un plan inéluctable qui mènera à la mort de Schmuck. Ayant pris le docteur Poulain comme complice, il emploie La Cibot à son service sans parvenir à la soumettre totalement à ses volontés. Frésier se fait ensuite aider par Madame Cantinet et la Sauvage, puis il s'entend avec Villemot, au rire de singe, pour duper Schmuck. Le corbeau, page 284, symbole lié à la mort, constitue alors une autre manière de métaphoriser la déchéance que subit le type inventif dans le cousin Ponce. Balzac pousse encore plus loin la manifestation physique des désirs de cette figure machiavélique. La convoitise, moteur des ruses de Frésier, se manifeste corporellement. C'est la citation. En passant dans le petit salon où l'attendait Amélie, il eut ce que aucun sudorifique, quelque puissant qu'il fût, n'avait pu produire encore sur cette peau réfractaire ébouchée par d'affreuses maladies. Il se sentit une légère sueur dans le dos et au front. Néanmoins, ce monstre inventif atteint peut-être des limites dans la mesure où, in fine, il sert les ambitions d'un autre personnage, Madame Camusot de Marville. Il ne se place pas, en ce sens, au sommet de cette machination criminelle, contrairement à la présidente, la bien nommée. De surcroît, Frésier ne façonne pas un mythe de Ponce. A l'inverse, Madame de Marville, tel un écrivain, ou plutôt un écrivailleur, crée trois légendes, une de Brunner et deux de Ponce. Est-ce à dire que les personnages les plus inventifs relèveraient du sexe féminin dans ce roman désabusé de 1847 ? Mon deuxième point essaie d'y répondre. Le personnage inventif semble de fait bien se dégénérer en une figure hideuse de diable en jupon, comme en témoignent les héroïnes maléfiques que sont La Cibot et Madame Camusot de Marville. Le héros inventif bascule ainsi, en 1846-47, dans le machiavélisme bourgeois le plus terrifiant, puis dans une convoitise féminine satanique. Féminité précisément brouillée et proche du genre masculin. Ce phénomène se produit déjà dans La Cousine Bête, mais dans une moindre mesure, dans le sens où Lisbeth Fischer et Valérie Marneffe sont ultimement punies et perdent tout dans le déroulement narratif du roman. Au sein du cousin Ponce, à l'inverse, les deux Méphistophélès en jupon et leur double monstrueux l'emportent à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan corporel, c'est mon A, les bras puissants de La Cibot, son corps envahissant, sa voix, sa force et son énergie physique contraste avec la maigreur et la mollesse de Ponce. Elle dépasse également l'état maladif et vicié de Frésier. La virilité de la Cibot et de la Sèche présidente pose d'ailleurs la question de la porosité des frontières entre les sexes. La périphrase de « portière à moustache » est une expression éloquente. Le personnage féminin semble assimiler les traits masculins. Elle met en tout cas ses caractéristiques physiques au service de son machiavélisme et de son jeu exubérant d'actrice. Madame de Camusot de Marville, aigrie et sèche, paraît, elle, moins empreinte de virilité. De vitalité. Pourtant, après la mort de Ponce et de Schmouck, elle reste vivante, dynamique et créative. Ces deux figures inventives contrastent avec la réification des deux casse-noisettes, de Ponce particulièrement, meuble empire qui finit dans une espèce d'emballage où il est traité comme une chose. H330. Dans l'espace et le temps du roman, la Cibot et surtout Madame Camusot de Marville triomphent également. C'est mon B. La portière finit de facto par posséder à elle seule le magnifique magasin boulevard de la Madeleine de Rémonenc. Le désir d'espace de Madame de Marville figure en outre un facteur déterminant du contrat mis en place avec Frésier pour capter l'héritage de Ponce. La victoire du diable en jupon, au centre des actions créatives du roman, est spatialisée par l'acquisition des prairies de Marville et le cottage. Page 381. Ponce est, lui, au fur et à mesure du roman, relégué dans un espace de plus en plus étroit des salons où il est reçu, jusqu'à la tombe. Corrélativement, Schmouck, exilé dans la mansarde de Taupinard, au sein d'une de ces affreuses localités qu'on pourrait appeler les cancers de Paris, je cite Balzac, finit obscurément enterré côte à côte avec Ponce. Tout se passe comme si la restriction spatiale était conjuguée à la déperdition d'inventivité des deux amis. Notons que la créativité et la dissimulation pour déjouer la Cibot se réveillent trop tard chez Ponce et Schmouck. Le vieil Allemand se révèle pourtant bon acteur. Quand les gens simples et droits se mettent à dissimuler, ils sont terribles, absolument comme les enfants dont les pièges sont dressés avec la perfection que déploient les sauvages. Cette discordance des temps, pour emprunter l'expression de Jacques-David Ebguy, étouffe l'inventivité et la réduit à une créativité éphémère, impuissante, parce que trop tardive. La Cibot et la présidente prévalent ainsi au niveau temporel. Ces types de personnages féminins inventifs, dégradés dans l'ignominie, survivent, dans cette mesure, à deux figures masculines d'artistes en quête d'idéal, Ponce et Schmouck, figures masculines déchues. Premier point de mon C, la logique narrative renforce la domination spatio-temporelle des diables inventifs. Très tôt dans le roman, en effet, Ponce est comparé à un écolier assujetti par une maîtresse, comme le suppose le passage cité au début de notre travail. Aussi, les rapports du pauvre Ponce avec ce diable en jupon étaient-ils ceux d'un écolier avec un maître qui ne parle que par férule. La suite du récit file ensuite ses liens de dominant à dominé, et Schmouck et Ponce deviennent des écoliers manipulés par différents types de maîtresses. La maîtresse ultime, Madame de Marville, modelant même le destin de Ponce après sa mort. La présidente semble ainsi symboliser une des figures les plus créatives du roman. Au contraire, la Cibot ne connaît pas la même victoire. Elle échoue notamment face au piège de Ponce et Schmouck. Dans le système des personnages, en outre, la Cibot se voit un temps réduite à une auxiliaire de Frésier, opposant hein, dans le système actentiel, même si elle garde une certaine autonomie. Son double hideux, la sauvage, joue le même rôle. A l'inverse, Madame de Marville surplombe le clan des opposants, puisque Frésier sert in fine les ambitions de la présidente. À un niveau symbolique, ces deux mères méphistophéliques éclipsent également les deux musiciens réduits à deux enfants. De même que la cousine bête est, selon Nicole Mosé, un étrange monstre qui assiège Steinbock, de même l'Incibot incarne un nouveau type de pouvoir et de création. Il ne s'agit plus des mères victimes de la comédie humaine. La Cibot, dispensatrice de vie et de mort, conduit avec la sauvage le cousin Ponce, puis Schmouk, à la mort. Cette portière, issue des types favoris de la littérature panoramique, selon Mireille Labouré, est héritée des physiologies de l'époque, comme l'a étudié André Laurent. Dans le réalisme visionnaire de Balzac, même les portières ont du génie, selon Gautier, cité par Mireille Labouré. Ce génie n'atteint tout de même pas de Baudelaire. Ce génie, mais ça aurait pu être Gautier, qui était. Mais Gautier a eu des propos aussi analogues. Je lisais dans Portrait du roi. Ce génie n'atteint tout de même pas celui de la présidente, qui sait allier à son machiavélisme une puissance sociale, historique et mystificatrice. D'emblée, elle incarne une mère, au sens propre du terme, mère conquérante qui n'a pas hésité à tuer pour le soi-disant bien de sa fille. Néanmoins, c'est une réussite. En outre, sa position hiérarchique la place au point culminant des stratégies de Frézier. Elle s'apparente à une héroïne inventive qui sait dépasser le plan des ruses matérielles pour créer, certes médiocrement, des légendes. Ainsi, le type du personnage inventif se dégrade en une figure féminine sordide qui déploie une inventivité maléfique. Ce nouveau type de personnage créatif bouleverse considérablement le schéma traditionnel des personnages et le système social dans la mesure où Madame de Marville, ce diable en jupon, surpasse les autres personnages masculins et ce à plusieurs échelles. L'inventivité maléfique constituerait-elle dès lors l'unique et sordide chemin pour la femme de dominer le système patriarcal et la sphère masculine des lettres? C'est mon grand 3. Et dernier point. Dans le cousin Ponce, selon notre hypothèse, la forme dégradée du personnage créatif en diablesse inventive devient le seul et mortifère moyen pour la femme d'échapper à l'enfermement patriarcal de la monarchie de Juillet, et ce à différents niveaux. Les héroïnes hideusement inventives du cousin Ponce retournent d'abord, nous l'avons noté, les conventions du schéma actantiel, dans lequel l'homme est ordinairement sujet, actant, et la femme l'objet de la quête. Ce renversement apparaît dans Albert Savarus en 1842 et dans Modeste Mignon en 1944. Néanmoins, Modeste Mignon devient un actant inventif pour servir un but non vénal et honorable. Si Rosalie de Watteville dans Albert Savarus devient elle aussi un Belzébuth, je cite, inventif, ce n'est pas par convoitise de l'argent, mais pour atteindre un idéal de passion amoureuse. En outre, le plan destructeur de Rosalie échoue, in fine, et elle est punie dans la logique narrative du roman, à l'inverse du cousin Ponce. La dégradation terrifiante de l'héroïne créative dans le cousin Ponce tient à ce que ce type se métamorphose en une forme de monstre en jupon, monstre qui perd toutes les caractéristiques positives ordinairement attribuées aux femmes inventives. Balzac narrativise jusqu'à un point extrême dans le roman de 1847 une idée présente dans Les Chouans et La peau chagrin, idée selon laquelle le mal restitue à la vie une intensité sans laquelle celle-ci est une sorte de mort. D'après Max Milner, que je viens de citer, l'imaginaire du diable traverse alors la comédie humaine sans que, selon ce critique, Balzac ne croie au dieu de la théologie. Une citation qui est projetée. Dans la mesure où Balzac se posait le problème de la toute-puissance et rêvait d'un surhomme capable d'accroître son être au mépris des conventions sociales et des interdits d'une morale périmée, il était inévitable qu'il rencontrât, encore une fois, sur sa route, la figure de Satan sous les espèces du criminel et du corrupteur. Selon le critique, en effet, le diable symbolise le caractère autodestructeur du vouloir et du savoir et se lie intimement au thème de la révolte. Plusieurs héros de la comédie humaine ont les caractéristiques du diable, comme Ferragus. Vautrin est le personnage le plus associé au diable dans Le Père Goriot, Illusion perdue, et surtout dans Splendeurs et misères des courtisanes, où il en devient une incarnation. Il est intéressant que dans Le Cousin Ponce, ce diable se soit transmué en une figure féminine. Dans La Cousine Bette, déjà, Madame de Saint-Estève et Valérie Marneffe sont associées au diable par la parole des personnages. à 3 reprises pour Valérie et 1 fois pour Madame de Saint-Estève. Cependant, cette dernière reste un personnage secondaire et Valérie n'est pas présentée comme l'incarnation du diable par la voix auctoriale. Elle est plutôt désignée comme appartenant au type des Machiavel en jupon. Cette antonomase périphrastique, apax de la comédie humaine, suggère la mutation du personnage inventif. Le narrateur du Cougin Ponce franchit un pas langagier et nomme Madame de Marville un diable en jupon, passant significativement du pluriel au singulier. Encore une fois, cet apax de la comédie humaine interroge. Certes, Frésier est comparé une fois à Méphistophélès et apparaît avec Magus et Rémonenc, altérés d'or comme les diables. Mais la présidente et la Cibot ne sont plus simplement comparées au diable, elles l'incarnent. Ainsi, Balzac use de la métaphore filée du diable pour désigner la Cibot et son pouvoir maléfique sur le docteur Poulain. C'est la citation qui apparaît. En outre, la marâtre de Brunner est devenue, c'est la citation qui apparaît, là voilà. En outre, la marâtre de Brunner est devenue, selon lui, un diable incarné. Alors, est-ce une condamnation d'une grande partie de la gente féminine par le Balzac pessimiste de 1847? Ou plutôt, l'énergie du mal évoquée par Max Milner est-elle en train de passer du côté féminin? Dernière hypothèse, est-ce le résultat d'un patriarcat étouffant? C'est mon grand B. Cette narrativisation du diable en jupon peut en effet constituer un regard balzacien pessimiste et désabusé sur la condition féminine en 1847. Tout se passe comme si les femmes ne pouvaient plus avoir recours qu'à l'ignominie pour espérer échapper au patriarcat presque carcéral, ouvert par le Premier Empire et poursuivi par la Restauration ainsi que la monarchie de Juillet. Les femmes sont oppressées, est enfermée dans la sphère familiale, et ce, malgré leur savoir et leurs compétences. Celles qui dérogent à la règle vont jusqu'à être incarcérées, comme Victorine Bigillion, une grande amie d'enfance de Stendhal. Nicole Moset a bien remarqué que la cousine bête est le revers littéraire, l'anti-reflet, d'une époque où l'enfermement des femmes constituait le symbole d'un pouvoir aussi brutal que mal assuré. Le renversement social entre dominant et dominé est poussé à l'extrémité la plus sordide dans le Cousin Ponce. Les mères, d'ordinaire plutôt victimes et douces dans la comédie humaine, se transforment ici en affreuses Lady Macbeth, je cite. Souvent associées à l'icône de la mère, la Cibot et son double, la Sauvage, entraînent le décès de leur protégé, à la différence de la cousine Mette, l'autre mère infernale des parents pauvres. Madame de Marville, elle, sauvegarde sa fille. Mais pour ce faire, elle salit l'honneur d'un homme qu'elle envoie à la mort et dont elle s'approprie les biens. Cependant, l'émancipation démoniaque de la présidente outrepasse même les limites sociales. C'est mon dernier point. En effet, Madame de Marville empiète aussi sur le plan discursif et même sur celui de l'invention littéraire. D'abord, les dialogues confèrent souvent une grande place à la présidente, excepté lorsque celle-ci écoute le long récit par Ponce, de l'achat de l'éventail de Madame de Pompadour. Madame de Marville domine en effet les échanges dialogaux, que ce soit chez la comtesse de Popinot, dans le salon du vieux Camusot, page 148, ou à la fin du récit chez le comte Popinot, page 382. Cette répartition de la parole présente Amélie de Marville comme maîtresse en matière de communication, et ce, malgré son langage plat, pour reprendre le terme de Lali Aveyron. Amélie semble détenir un pouvoir de la parole aussi, voire plus fort que les hommes du roman, et peut-être même de Frésier, dont la puissance discursive est pourtant importante, selon Lucienne Frappier-Mazur. De fait, Madame de Marville, par une conception infernale, je cite page 147, parvient à prendre la place d'une forme dégradée d'écrivain, dans la mesure où elle est l'auteur de 3 légendes dans Le Cousin Ponce. Elle façonne... De fait, Madame de Marville, par une conception infernale, façonne 3 légendes. Hein. Elle façonne d'abord l'histoire de Ponce, en le présentant comme auteur d'une vengeance et d'une mystification d'artiste, page 149. Le collectionneur devient le traître qui a trompé Cécile et sa mère sur le mariage de la jeune fille et de Brunner. Je cite, « Ce Brunner et M. Ponce s'entendaient pour s'attribuer l'un à l'autre des millions », page 149. Aussi, Madame de Marville réécrit-elle également la biographie de Brunner en le rendant coupable de cette mystification. Elle le réduit à un fils de cabaretier allemand, le neveu d'un marchand de peau de lapin. Je cite page 148. Il a mené, renchérit-elle, la vie la plus crapuleuse, et aucune fortune ne peut suffire à un drôle qui a déjà mangé celle de sa mère. La présidente est enfin l'auteur d'une troisième légende, à la fin du Cousin Ponce, dans laquelle elle retourne complètement son premier récit. Elle dépeint Ponce comme un homme charmant, plein d'esprit d'original, et avec cela beaucoup de cœur. Page 382. Elle s'apparente à un écrivain mystificateur qui peut dire tout et son contraire, en continuant à être cru par ses lecteurs. Ce ne sont plus seulement ici l'art de plaire devenu un métier, ni les heureuses créatrices de mode dans La Cousine Bête. Avec ces trois légendes, Madame de Marville devient un personnage inventif infernal qui s'oppose au rejet des femmes auteurs par les institutions politiques de la monarchie de Juillet. Amélie n'est alors pas sans figurer une forme monstrueuse de bas blanc, de bas bleu. En outre, plus qu'inventer ses fables, Madame de Marville sait les propager. Elle associe de ce fait l'inventivité à la communication et la publicité. Elle apparaît même comme gouvernant les échanges entre les différentes familles Camusot, Cardot, Berthier, familles qui adhèrent aussitôt à la mystification d'Amélie et la défendent. Page 148 et suivante. La dernière légende sur Ponce convainc également les étrangers. Page 380, invité chez le comte Popinot. Et ce nouveau récit est accrédité par le comte Popinot et Amélie. Ceux-ci acceptent de véhiculer la nouvelle légende de la présidente. Tous ces éléments font sentir que la médiocre Madame de Marville prévaut dans sa créativité maléfique sur les autres figures créatives du roman. Les différentes mystifications de Madame de Marville et la manière dont elle manie son entourage ne sont d'ailleurs pas sans porter une réflexion métatextuelle sur les auteurs manipulateurs. Balzac a beaucoup souffert de médisance dans le milieu littéraire et il narrativise souvent ce phénomène. Mais il peut aussi mettre en garde le lecteur contre la mystification politique, comme le fera Zola avec Pierre Rougon dans La Fortune des Rougon. Pour conclure, si une typologie du personnage inventif dans le Cousin Ponce fait percevoir quelques traces d'un type d'artiste désintéressé, du premier Balzac, ce type se disperse et se dégrade très rapidement dans le roman. Le type du personnage créatif se dégénère en manipulateur monstrueux qui reste impuni à la fin de l'œuvre. Néanmoins, les diables inventifs qui prennent le plus de place et qui, comme Madame de Marville, l'emportent dans la logique narrative du récit, sont des personnages féminins. Le Belzébuth, inventif, qui se retrouve au sommet de toutes les sordides manœuvres, est Madame de Marville. Dans cette mesure, Balzac peint peut-être la seule issue infâme pour la femme d'échapper à l'emprisonnement de la monarchie de Juillet. Cette figure créative dans le mal le plus atroce renverse quoi qu'il en soit les conventions du schéma actantiel, mais aussi social, politique et littéraire, par les formes dégradées d'écrivains et de manipulateurs des foules qu'elle représente. Cette dégénérescence de l'héroïne inventive est poursuivie par Zola avec le personnage de Félicité Rougon, et non plus le héros masculin Pierre Rougon dans La Fortune des Rougon en 1871. En effet, Félicité, dans Le Docteur Pascal de 1893, fait preuve d'un machiavélisme énergique et noir pour élaborer et diffuser une légende dorée de sa famille. Je vous remercie.